20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. On s'évade ce soir dans les montagnes, sur quelques sommets enneigés, les sommets musicaux de Gstaad, qui célèbrent cette semaine leur 20e anniversaire. Un festival dirigé par Renaud Capuçon. Renaud Capuçon nous en dira justement quelques mots ce soir, tout comme le pianiste Nicolas Angelich et la compositrice Camille Pépin, qui ont posé leurs valises toute cette semaine à Gstaad pour encadrer de jeunes pianistes, car les sommets musicaux de Gstaad sont aussi placés sous le signe de la transmission, de l'émulation. Mais avant cela, jetons un coup d'œil sur d'autres temps forts de l'actualité musicale. Et on commence avec un article publié sur le site de Radio Classique, un article signé Philippe Gault, qui a visiblement suscité un vif intérêt. Cet article revient sur une étude concernant la surdité de Beethoven, une étude que l'on doit au musicologue Theodor Albrecht, selon laquelle Beethoven aurait effectivement souffert d'une sévère détérioration de ses capacités auditives, mais ne les aurait pas complètement perdu. Selon lui, il aurait pu ainsi entendre, par exemple, sa 9e et dernière symphonie. Les carnets du compositeur révèlent en effet que ce dernier n'était pas complètement sourd, bien que souffrant d'un lourd handicap. Beethoven est toujours au cœur de l'actualité musicale et suscite même des démarches pertinentes, telles celles de la pianiste Shani Di Luca, qui a choisi d'associer quelques-unes de ses grandes sonates pour piano aux ragas indiens, un programme original, spirituel même, comme la pianiste en a le secret, intitulé Cosmos, qui met donc en évidence les liens du compositeur allemand avec la culture indienne. On découvre ainsi un Beethoven mystique dans sa recherche sur l'homme et le cosmos, et surtout curieux des autres cultures, nous dit Shani Di Luca. Elle sera prochainement notre invitée dans le journal du classique, et son album, cet album Cosmos, enregistré avec des musiciens indiens, sort cette semaine chez Warner. Beethoven, toujours, avec Julien Chauvin et ses musiciens du Concert de la Loge, qui eux ont choisi de mettre en regard sa musique avec celle de son contemporain et ami d'enfance, Anton Reicha, né la même année, en 1770. Comme en témoigne un récent enregistrement associant le Septuor de Beethoven à la Grande Symphonie de Salon de Reicha. Une œuvre, cette Grande Symphonie de Reicha, qui avait été oubliée, qui dormait sur une étagère de la Bibliothèque Nationale de France et que l'on peut enfin découvrir au disque, mais aussi au concert, puisque Julien Chauvin et ses musiciens la donneront avec le Septuor de Beethoven jeudi soir à Lyon, salle Molière, vendredi à Dourdan, dans le cadre des concerts de poche, et puis dimanche à Arles, au Méjean. petit extrait de la grande symphonie de salon de Reicha par le concert de la Loge et Julien Chauvin qui joueront donc Reicha mais aussi Beethoven jeudi à Lyon, vendredi à Dourdan et dimanche à Arles.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Se tient en ce moment et jusqu'à la fin de la semaine la nouvelle édition des Sommets musicaux de Gstaad qui fête à cette occasion leur 20e anniversaire. Un festival qui associe deux prestigieux solistes tels Martha Argerich, Nicolas Angelich ou encore Philippe Jaroussky à de jeunes talents. Et c'est Renaud Capuçon qui depuis 4 ans en assure la direction artistique avec l'engagement qu'on lui connaît, engagement d'autant plus fort que la montagne est pour lui, source d'inspiration, d'apaisement, l'environnement idéal pour faire de la musique, comme il me l'a confié.
C'est revivre des souvenirs d'enfance, je le dis souvent, mais voilà, revivre mes découvertes de concerts aux Arcs dans la montagne aussi, au moment de Noël ou de février, donc pendant la période d'hiver. Et puis surtout accueillir ces musiciens que j'admire et qui jouent différemment dans cette église de Zannon, parce que c'est une église tout en bois. On arrive sous la neige, on repart sous la neige, et il y a quand même une façon de jouer, une façon d'être inspiré qui est tout à fait différente de celle qu'on a quand on joue à Londres, à Paris ou à Berlin.
De grands solistes, de grands musiciens, des fidèles, Edgar Moreau, Keith Armstrong, Martha Argerich et bien d'autres. Et puis des orchestres qui, pour la plupart, viennent de Suisse. L'orchestre de chambre de Lausanne, l'orchestre de chambre de Lucerne que l'on a entendu également. C'est important cet ancrage avec la région.
Cette année, j'ai vraiment orienté les orchestres sur la Suisse. D'abord parce que ce sont des orchestres excellents. Et c'était pas la peine de faire venir un orchestre du bout du monde alors qu'à une heure de route ou une heure et demie de route, l'orchestre de chambre de Lausanne, qui est un magnifique orchestre de chambre, un des meilleurs d'Europe. L'orchestre de Lucerne, la même chose. Il y aura aussi les Lausanne Soloists. Donc cette année, j'ai vraiment, pour les 20 ans, j'ai voulu mettre un accent sur les orchestres suisses. Et on a aussi l'orchestre Aurora, qui est un orchestre de jeunes anglais. Et puis l'année prochaine, il y aura des orchestres un peu plus internationaux. Je pense que à partir du moment où on est basé sur l'excellence et qu'on a assez près de soi des orchestres excellents, il faut en profiter.
Alors justement, cet ensemble, les Lausanne Soloists que vous avez fondé en 2018, réunis de jeunes musiciens, pourquoi avoir eu envie de créer votre ensemble, de réunir ces jeunes musiciens maintenant que vous enseignez, d'ailleurs Renaud Capuçon?
C'est un besoin naturel. Je donne souvent comme exemple, quand on a un enfant, on ne se pose pas la question le matin, tiens, est-ce que je vais apprendre quelque chose à mon fils ou est-ce que je vais... On transmet naturellement. Et dans la musique, pour moi, c'est exactement la même chose. La transmission fait partie intégrante de ma mission de musicien. Et donc, j'enseigne à la Haute École de Musique de Lausanne et cet ensemble, c'est enseigner d'une autre façon, c'est participer à la vie musicale avec eux, en jouant avec eux et... Je pense qu'on apprend tous les uns des autres. Moi, je prends d'eux une énergie absolument incroyable. Dans ces 4 saisons de Vivaldi, c'est décapant. Quand je demande un tempo, non seulement ils le font exactement, mais il y a encore plus d'énergie que ce que moi j'imaginais. Je retrouve toujours ces mots que m'avait dit Abado quand je lui avais demandé un jour « Pourquoi tu passes tous ces étés avec nous ?» Et il avait rigolé, il m'avait dit « Tu comprendras quand tu auras mon âge. » Et j'ai pas son âge, il avait 60 ans à l'époque, mais je comprends exactement ce qu'il veut dire. On reçoit des jeunes une énergie qui est différente et qui vous fait décoller.
Alors Vivaldi refermera le programme du festival, de ses sommets musicaux de Gstaad, festival qui fête ses 20 ans cette année. Et c'est avec Beethoven, tout naturellement, que vous avez choisi, Renaud Capuçon, d'ouvrir ce festival. Beethoven, compositeur que vous fréquentez depuis toujours, comme la plupart des musiciens que vous avez invités, dont vous avez enregistré 2 trios qui paraîtront prochainement. Beethoven, c'est un compositeur qui provoque chez vous et chez d'autres musiciens des sensations particulières par rapport à Mozart, par rapport à Brahms, par exemple.
Oui, j'ai toujours l'impression que pour jouer Beethoven, il faut être charpenté, il faut avoir une colonne vertébrale. On ne peut pas jouer Beethoven sans avoir cette notion quasiment innée du rythme, de la carrure rythmique, de la carrure tout court. Et c'est vrai qu'on joue Beethoven depuis très jeune, mais c'est un compositeur que je ne cesse de découvrir, de redécouvrir en jouant l'intégrale des sonates, en jouant le concerto, le triple concerto et les quatuors à cordes. J'ai créé ce quatuor avec Moreau, Chillem et Lamarca il y a 4 ans pour justement jouer au départ les derniers quatuors de Beethoven, et c'est une belle aventure. Et je dois dire que je ne joue plus de la même façon le concerto pour violon depuis que j'ai joué les derniers quatuors de Beethoven, qui sont d'ailleurs d'une difficulté redoutable, mais qui montre à quel point ce compositeur était un compositeur. Enfin, c'est pas pour rien qu'on le fait partout. C'est un immense génie.
Alors Beethoven et Vivaldi, on l'évoquait, mais un programme très large, très varié pour ces sommets musicaux de Gstaad. Le 20e anniversaire, qu'est-ce qu'il vous a inspiré, Renaud Capuçon, cet anniversaire, cette notion d'anniversaire ?
J'ai eu envie en fait de faire un 20e anniversaire assez sobre. Il n'y a pas de, il y a rien de bling bling. Ça brille, mais c'est pas bling bling. Voilà, la musique brille d'elle-même. J'ai rajouté simplement ce concert Bach qui aura lieu maintenant chaque premier dimanche du festival. Un concert Bach à 11h à l'église de Rougemont, qui sera vraiment une façon de partager ce compositeur, et c'est aussi une façon de vivre une forme de spiritualité ou de méditation, ce qu'on veut, quelle que soit sa religion, mais de communier avec Bach. Ça, c'était l'idée. Et puis, je trouvais que symboliquement, d'avoir cette année Camille Pépin comme compositrice en résidence, elle qui est jeune, qui a un talent fou et qui est une femme, je trouvais que c'était un beau symbole pour ses 20 ans.
Petit extrait du Scherzo du trio L'Archiduc de Beethoven dans l'enregistrement de Renaud Capuçon avec Gauthier Capuçon et Franck Bralet. Enregistrement qui sortira le 28 février chez Warner. Renaud Capuçon qui retrouvera les jeunes musiciens de son ensemble Lausanne Soloist samedi soir en l'église de Zahnen autour des quatre saisons de Vivaldi dans le cadre des sommets musicaux de Gstaad. La veille, c'est Nicolas Angelisch qui s'y produira dans le 24e concerto de Mozart avec l'orchestre Aurora. Nicolas Angelisch, venu au sommet musicaux de Gstaad également pour prodiguer des conseils à 8 jeunes pianistes qui, chaque jour de la semaine, se produisent dans la petite et si jolie chapelle de Gstaad. Nicolas Angelisch est ainsi le mentor de ces jeunes talents. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour lui? Comment envisage-t-il ce rôle? On l'écoute justement.
Ben, c'est un rôle très particulier, mais parce que je trouve qu'aussi ce qu'on propose ici est particulièrement intéressant et donc un petit peu spécial. Il s'agit déjà de jeunes pianistes qui sont déjà dans le métier, tout simplement, pour parler clairement, qui sont tous différents, avec des fortes personnalités. Ils sont vraiment très impressionnant, chacun à sa manière. Là, il s'agit pas du tout de donner des c'est même pas une masterclass, c'est une espèce de présence amicale que je propose comme une oreille un petit peu externe qui se prête comme ça dans une espèce de dialogue. C'est un peu du sur-mesure, quoi. Voilà. Ils jouent le même jour, donc un récital avec des programmes très exigeants, très différents chacun, vraiment intéressants et qui montrent des recherches et des personnalités tellement intéressante et de grande maturité, quoi.
Et comment fait-on lorsqu'on rencontre pour la première fois un jeune pianiste, un jeune musicien, qu'on a une heure à lui accorder? Comment fait-on pour cerner sa personnalité et trouver les mots qui vont l'aider à développer son propre jeu?
Je pense que c'est comme dans n'importe quelle relation dans la vie, c'est une chose qui se passe entre deux personnes, donc il faut s'adapter, il n'y a pas des recettes. Moi, de toute façon, dans l'enseignement, je trouve qu'il y a peut-être des choses un peu qu'on voudrait dire, qui nous semblent importantes, mais après, c'est vraiment une question d'écoute, déjà, et d'essayer de dire des choses qu'on pense être importantes sur le moment, et soit dans le court terme, soit dans le long terme, et puis évidemment que ça soit quelque chose qui puisse servir à la personne en question. Parfois il faut beaucoup parler, parfois il faut moins parler, dire peu de choses, mais d'une autre façon, parfois des choses très détaillées, et parfois des choses beaucoup plus différente, un peu plus générale. C'est un dialogue qu'on doit essayer de créer, et voilà, avec un peu de chance, on peut apporter un petit quelque chose. Voilà.
Alors vous êtes venu ici, Nicolas Angelisch, au Sommet Musical de Gstaad pour aider ces jeunes musiciens, les conseiller, les suivre pendant une semaine. Vous êtes venu jouer aussi, puisque vous présenterez un programme dans quelques jours. Est-ce que c'est difficile de faire les deux en même temps?
Bien sûr, tout est toujours difficile. Moi, je dis souvent que tout est difficile. Vivre en musique, vivre avec la musique, pour la musique, en essayant de la servir au mieux, ça implique une grande difficulté, un grand travail et une grande discipline. C'est beaucoup de choses comme ça. Ça nous demande beaucoup. Et en même temps, ça nous apporte quelque chose qui, je pense, est essentiel dans notre vie. Et c'est bien sûr que c'est difficile, mais c'est aussi très inspirant d'entendre des belles choses. Hier soir, nous avons entendu un concert magnifique. Et puis, il y a le concert de tout à l'heure. Il y a plein de choses qui se passent ici. Donc, c'est toujours une chose inspirante. Et en même temps, ça aide à réfléchir aussi d'une autre façon. On peut toujours apprendre. Et on peut beaucoup apprendre avec des gens plus jeunes que nous aussi. Il ne faut jamais l'oublier. C'est très intéressant. Ça fait des journées très remplies, voilà, et où il se passe beaucoup de choses. Et je dirais que c'est plutôt ça qu'il faut essayer de faire. Voilà.
Thank you.
Quelques notes de Schumann, un extrait des Kreisleriana sous les doigts de Nicolas Angelich. Nicolas Angelich qui accompagne toute cette semaine les 8 jeunes pianistes invités cette année au sommet musical de Gstaad. Et à ses côtés, la compositrice Camille Pépin, à qui le festival a commandé une pièce intitulée Number One, pièce jouée donc toute cette semaine par les 8 pianistes participant à ce cycle. Une expérience forcément passionnante à vivre pour un compositeur, celle d'entendre sa musique appropriée par 8 musiciens, 8 personnalités différentes. Expérience que Camille Pépin avait déjà eu l'occasion de vivre dans le cadre du concours Lontibault, pour lequel elle avait composé l'œuvre contemporaine imposée aux finalistes, déjà à la demande de Renaud Capuçon. Et elle se réjouit, Camille Pépin, de revivre cela comme elle me l'a confié.
Je trouve ça vraiment génial de pouvoir travailler avec plusieurs interprètes la même semaine. Là, je vais entendre 8 versions différentes, j'en ai entendu une aujourd'hui, il m'en reste encore 7. Je vais pouvoir faire ma propre synthèse, moi aussi, sur mon propre travail, sur ce que j'ai voulu faire, et de voir ce que me proposent les pianistes en arrivant d'eux-mêmes avec la même partition, enfin, à quel point ça peut être différent, enfin, c'est fascinant pour moi.
Et pourquoi Number One ? Qu'est-ce que ça signifie, ce titre ?
J'ai commencé un cycle de musique de chambre, en réalité, autour de plusieurs all-over de Jackson Pollock. Et c'était d'ailleurs le cas pour Lontibault. J'avais choisi le all-over Autumn Rhythm. Et là, j'ai choisi le all-over qui s'appelle Number One. C'est une toile vraiment immense, dans les couleurs mauves qui évoquent le lever du soleil. On a tellement de textures dans ce tableau. Moi, j'imaginais une ouverture un peu festive, en fait. Et vraiment l'éclat de la lumière. Beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Et c'était ça le point de départ de ma pièce.
Avec des insertions dans les cordes du piano d'objets particuliers pour créer justement des effets de lumière.
Oui, alors j'ai utilisé un Ibo, donc un archet électronique qui est en général utilisé par les guitaristes. Cage l'a fait pour le piano. Donc ça fonctionne avec une pile, c'est un petit boîtier noir avec une pile à l'intérieur. On pose sur la corde que l'on souhaite et ça fait juste résonner une note. C'est un son tenu qui est vraiment très beau. C'est un son un peu cosmique, complètement mystérieux. On ne sait pas trop d'où ça vient. Et puis, j'ai demandé au pianiste de mettre un chiffon dans l'aiguille du piano pour étouffer le son. On a l'impression de petites cloches comme ça, très douces, très lointaines, comme des cloches un petit peu étouffées. Enfin, c'est un son que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup cherché, quand j'ai commencé la pièce, plein d'effets comme ça pour avoir le plus, enfin, tout un éventail de couleurs possibles, enfin, le plus riche possible.
Alors cette œuvre Number One, Camille Pépin, vous allez l'entendre jouer par 8 pianistes différents. Vous travaillez en amont avec chacun d'entre eux. Vous avez travaillé aujourd'hui avec Jonathan Fournel. Comment ça se passe, le travail, l'échange? Est-ce que c'est un échange d'ailleurs entre le compositeur et l'interprète?
Oui, c'est un véritable échange, c'est ça qui me plaît beaucoup. Ce matin, Jonathan est arrivé avec sa proposition, avec sa version de la pièce. On en a discuté et il y avait aussi plein de questions. J'ai écrit une petite note au début de la partition en expliquant que j'avais imaginé, moi, vraiment, enfin, tout un orchestre, en fait. C'était une pièce orchestrale. Et il me demandait à tel endroit, alors là, c'est parce que tu as imaginé les corps, c'est ça? Là, il y a 4 corps, là, ce sont des contrebasses. Et on a cherché des couleurs comme ça ensemble et voir... À chaque fois, ce qui lui correspondait le mieux, en fait. À un moment, il me dit, ah non, ça, pour moi, c'est de la grosse caisse. Bon, bah, très bien, c'est de la grosse caisse. Voilà. Il a commencé par me jouer toute la pièce et après, on a travaillé petit bout par petit bout aussi, pour aller encore plus loin, enfin, dans la recherche de couleurs. Il y a aussi l'acoustique de la chapelle qui est particulière, donc on a adapté certaines choses. Moi, c'est mon moment préféré, en réalité. C'est quand je suis en contact avec les interprètes et dans l'échange.
Alors vous êtes en contact avec de jeunes interprètes que vous ne connaissez pas, en tout cas pour certains, que vous découvrez. Ils vous surprennent, j'imagine, vous n'en avez vu qu'un aujourd'hui, mais vous avez eu cette expérience dans le cadre du Lontibault. Vous êtes surprise par des propositions différentes, par des perceptions différentes de votre œuvre, ou peut-être d'avoir la sensation aussi que certains ont mieux compris votre musique, votre message, d'autres sont passés à côté, ou vous proposent des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, mais qui s'accorde avec votre pièce.
C'est pas parce que parce qu'il y a plusieurs versions différentes. Évidemment, j'ai mes préférées, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres. J'aime au contraire qu'on me propose des choses très différentes, parce que je me dis, tiens, avec ce que j'ai écrit, il a proposé ça. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Pourquoi? Pourquoi? Point. Comment je peux faire la prochaine fois pour mieux me faire comprendre en réalité? Comment je peux mieux préciser les choses? ça m'apporte beaucoup en même temps. Donc j'ai besoin d'entendre toutes ces versions différentes. Après, évidemment, il y a des coups de cœur et ça, c'est difficile de mettre des mots dessus. Parfois, dès les premières secondes, on se dit mais j'ai l'impression qu'il a tout compris à qui je suis, à tout ce que je fais. Et c'est magique.
Alors, ce sont de jeunes interprètes qui jouent ici votre musique à Gstaad. Camille Pépin, vous avez beaucoup travaillé avec des jeunes. Il y a eu notamment ce merveilleux enregistrement que vous avez réalisé, entre autres, avec Raphaël Moreau et Célia Onetto Ben Saïd. Est-ce que vous sentez chez les jeunes musiciens, la nouvelle génération d'instrumentistes, une ouverture, un intérêt particulier pour la création, une envie de travailler avec des compositeurs?
Oui, je le sens vraiment beaucoup. C'est-à-dire que ce sont les interprètes qui viennent vers moi pour me demander des pièces. Alors, des formations atypiques, évidemment, beaucoup, parce qu'ils ont besoin de nouveaux répertoires. Mais même les formations violon-piano, par exemple, on me demande souvent violoncelle-piano, le quatuor à cordes. Et beaucoup de jeunes, je dirais, à 90%. C'est vraiment une envie, ça vient du cœur. Ils sont prêts à attendre l'occasion de pouvoir passer une commande, de trouver un festival qui accepte de passer la commande pour pouvoir défendre cette musique et après il la rejoue. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait quand ça part du cœur, après il la rejoue, c'est pas une pièce qu'ils ont montée, qu'ils ont passé 2 mois à monter pour jouer une seule fois en concert et après basta. Non, ils ont à cœur de la défendre, de la faire vivre.
Alors vous allez devoir les juger, entre guillemets, quelque part, ces interprètes, puisqu'un prix sera décerné, entre autres, pour la meilleure interprétation de votre œuvre, Camille Pépin. C'est difficile, c'est d'autant plus difficile de juger quand c'est sa propre musique, quand les propositions sont différentes. Comment fait-on, justement, pour faire la part des choses ?
Je pense que ça va être difficile, oui, de dire quelle version j'ai préférée, mais je pense que, tout simplement, ce sera la version qui m'aura le plus touchée, celle qui m'aura le plus parlé. Et j'essaierai de faire la part des choses aussi avec la rencontre humaine, parce que ça peut aussi parfois prendre le dessus. Donc il faut... ça, j'y ferai attention, mais après, en général, ça va ensemble.
Un petit extrait d'Indra de Camille Pépin par Raphaël Moreau et Célia Onetto Ben Saïd. Camille Pépin, compositrice en résidence des Sommets musicaux de Gstaad, un festival qui fête ses 20 ans et s'achèvera samedi soir. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marion Bennett pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la flûtiste Juliette Hurel et de la pianiste Hélène Couvert à l'occasion de la publication de leur bel album dédié aux compositrices françaises de la fin du 19e siècle.
Très belle soirée, soirée que je vous invite bien entendu à prolonger en musique avec Francis Drezel.